Europe 1. Ondelat raconte. Christophe Ondelat.
C'est l'un des récits les plus touchants de tout ce que je vous ai raconté. Celui d'Enora Malagré, tiré de son livre « Un cri au ventre » que vous trouverez chez J'ai lu. Peut-être est-ce que vous ne connaissez pas Enora ? Elle est célèbre pour avoir participé pendant des années à l'émission de Cyril Hanouna sur C8. Elle a fait aussi de la radio, joué au théâtre. Et un jour, elle a révélé qu'elle souffrait d'endométriose. C'est une maladie taboue parce qu'elle est très intime et elle le raconte de manière assez crue, comme personne n'en a jamais parlé. C'est une maladie de femme que les hommes ne connaissent pas. En tout cas, c'était mon cas. J'ai écrit cette histoire avec Tuc Duhal de Dieu le veut. Réalisation Céline Lebras.
Europe 1, Christophe Ondelat.
J'ai dit la vérité en février 2017, dans un prime de l'émission « Touche pas à mon poste » sur C8. Ce soir-là, il était question de dire la vérité. Un internaute m'a posé une question très intime. J'ai décidé d'y répondre franchement.
T'as l'air amoureuse. Alors, à quand un enfant avec Doumé?
Alors,
c'est un peu tôt. Il faut dire toute la vérité.
Alors, c'est un peu tôt déjà. Et moi, j'ai un petit souci, c'est le prime de la vérité. C'est que moi, j'ai une maladie qui s'appelle l'endométriose. Ah. Et j'ai d'autres soucis et c'est compliqué d'avoir des enfants pour moi.
Ce soir-là, j'ai accouché de ma douleur. Je suis né en 1980 à Morlaix, en Bretagne, dans une famille où la maladie régnait en despote depuis des générations. Quand j'étais petite, les mamans de mes amis les emmenaient à l'école. Eh bien, la mienne restait parfois au lit. L'endométriose, déjà, à une époque où on n'en parlait pas. Et moi, je n'ai pas peur de le dire. Je suis un accident. Parce que quand elle est avancée, cette maladie compromet sérieusement les chances d'avoir un enfant. J'en sais quelque chose, moi ça fait 10 ans que j'échoue. Et pourtant, ma mère, après d'innombrables fausses couches, a fait mentir les statistiques. J'ai grandi à Concarneau, dans le Finistère Sud, à 100 mètres de chez ma grand-mère maternelle, mamie Paulette. Elle était tout pour moi. C'était une femme indépendante et rebelle. Elle se revendiquait l'égale de mon grand-père bien avant 68. Et d'ailleurs, c'est lui qui était au fourneau et lui qui débarrassait la table. Elle portait des pantalons et elle remettait les emmerdeurs à leur place. Et elle aussi avait la maladie. Enfant, je ne savais pas de quoi ma mère et ma grand-mère souffraient. Ce que je sais, c'est que moi, toute petite, plusieurs fois, on m'a trempé les pieds dans la fontaine de Saint-Enora à Morlaix. Tout ça parce que la légende veut que Saint-Enora, prostituée de son état, avait reçu l'apparition de Joseph de Saint-Efflam, qui l'avait guéri de la stérilité en lui baignant les pieds. Espoir quand tu nous tiens. Jusqu'à l'âge de 28 ans, je vis heureuse comme une vraie petite branleuse. Je me trouve belle avec mes seins dressés qui semblent défier la mode, mes fesses rebondies sur lesquelles on pourrait dîner à deux, mes longs cheveux sauvages, mon ventre plat, mes cuisses musclées. Je me trouve jolie et je me sens tellement libre. Et puis, à 28 ans, à l'époque je suis animatrice sur Radio Nova et à RTL 9, un soir, sans préavis, la maladie me casse les jambes. Je transpire. Ça y est, la voilà qui approche. Une chaleur sourde qui me monte à la tête. On cogne sur mes tempes. Alors je me lève, je mets n'importe quelle chanson de Nick Drake. Ça va me calmer, comme un pansement. But it came by on her way. Said she had a word to say. La première morsure arrive. Un coup de croc au niveau des ovaires. À droite, à gauche. Je manque d'air. Dans mon ventre, en bas, ça crie. Des cris aigus. Je m'allonge sur le sol, sur le dos. Je manque d'air. Coup de couteau dans mes reins. Je me replie en position fœtale. Je manque d'air. Je bave, j'ai chaud, ça crie dans mon crâne. Je crie aussi, je réponds. La douleur se diffuse, elle attaque mes jambes. Ça brûle, je hurle. Ah ! Les contractions commencent. Au milieu, coule le sang de mon vagin chagriné. Je rampe jusqu'aux toilettes. Je suis une larve malodorante et sanguinolente. C'est loin, putain ! C'est loin ! Je fais une pause. Nouvelle contraction. Je saigne. Mon jean est trempé. Je laisse une trace sur le parquet. Je vomis. Je reprends ma route vers les toilettes. Je transpire. Je me hisse sur les toilettes. Une contraction, je pousse. Je me vide de mon sang. Je pousse du sang. J'accouche de sang. Je remets ma culotte. Je m'allonge par terre. Je rouvre les yeux. Je fonce jusqu'à la salle de bain. Mes médicaments. Mes médicaments. Trouver la bonne drogue. La bonne dose. J'ai gagné. Je vais me doucher. Je vais me laver. Elle est longue, ma course, pour mettre un mot sur ma maladie. Il a fallu 2 fausses couches et des années de douleur pour qu'on pose un diagnostic. Mon gynécologue est passé totalement à côté de ce que je lui décrivais. « Vous devriez aller voir un psychologue, mademoiselle. » Il a dû me prendre pour une hystérique. Le deuxième gynéco que je vais voir, cabinet austère, secrétaire de 230 ans, je lui décris mes symptômes. « Ah, les bonnes femmes et vos règles, hein. C'est toujours un poème. Hein. » J'ai dû voir 5 gynécologues avant de rencontrer le bon. Et ce faisant, j'ai perdu 3 ans, ce qui est nettement moins que les 7 ans et demi en moyenne au niveau national. Comment expliquer l'ignorance et l'indifférence du corps médical? Moi, ma chance, c'est d'avoir eu une mère atteinte du même mal. Et donc, à un moment donné, j'ai pu souffler le mot à l'oreille des gynécologues.
C'est pas pour dire, mais je pense que c'est l'endométriose.
D'accord. Je le pense aussi, mais le problème, c'est que ça ne se soigne pas. Il faut prendre des antidouleurs et puis serrer les dents, hein. Et par ailleurs, sachez que vous n'aurez pas d'enfant, hein. C'est terminé. J'ai fini par trouver le bon médecin, bon diagnostic, bonne solution. Je suis possédé par mon désir d'enfant. Au point qu'il m'est arrivé de mimer publiquement le fait d'être enceinte, de glisser un coussin sous mon pull et de dire au gré des conversations
« Eh oui, je suis enceinte. »
Depuis mes 20 ans, j'ai dû pisser 100 de tests de grossesse, juste pour m'entendre le demander à la pharmacienne. À voix haute, distinctement, avec un large sourire, pour qu'elle comprenne que ça serait une jolie nouvelle.
« Bonjour. » Je voudrais un test de grossesse, s'il vous plaît.
J'espérais un miracle, même si la maladie m'a appris à vivre de désillusions permanentes. Aujourd'hui, je suis au bureau, je prépare mon émission de radio, et je sais que je suis enceinte. Mes seins sont plus gros, j'ai des bouffées de chaleur, j'ai mal au cœur. Ça fait 3 jours que je me dis que je suis enceinte. Alors, détour par la pharmacie.
Bonjour. Je voudrais un test de grossesse, s'il vous plaît.
Retour à la maison. Je déchire l'emballage. J'urine sur le bâtonnet. Positif. Je le savais. Je suis enceinte de 2-3 semaines. Mais je retiens ma joie. Voilà ce que l'endométriose nous vole. La joie. Prépare-toi à souffrir, ma grande. C'est comme un compte à rebours, la fausse couche annoncée. Je sais que je vais le perdre. Je sais qu'il ne va pas pouvoir s'accrocher. C'est terrible de recevoir la nouvelle qu'on attend depuis toujours dans un brouillard d'idées noires. Ce soir, je suis invité chez une amie. Un grand dîner parisien dans un grand appartement du 10e arrondissement. Avec des attachés de presse, des animateurs, des gens qui bossent dans la mode.
Oh, Enora, Je suis tellement contente que tu sois là. À table, on mange bio. La botte d'asperges en provenance directe du producteur a dû coûter 23 euros. Les serviettes sont brodées, le fromage est truffé, les convives sont intelligents, ils sont drôles, ils sont très beaux. Et puis juste avant le dessert, vient la question. C'est Damien, l'attaché de presse des stars, qui me la pose sans délicatesse. Et toi, Eno, t'as pas d'enfant ? Enfin, c'est fou, ça. Je souris jaune. Et je sers la version censurée. Eh bien non, pas pour l'instant. Oh, pas pour l'instant. Drôle de façon de dire que t'as pas de mec, non. Eh, fais gaffe, hein, Noura. La quarantaine, c'est demain. Si t'attends trop longtemps, ce sera mort. Oh, franchement, tu devrais essayer. Plus t'attends, plus ce sera difficile. La tête me tourne. Et j'ai envie de hurler. Mais je ne dis pas que je suis malade. La peur de passer pour une fille misérable. Et donc je leur sers ma phrase. En fait, moi, je veux pas d'enfant. C'est pas pour moi. Stupeur et tremblement dans l'assemblée. Ce genre de dîner, j'en vis tous les mois. En société, ne pas avoir d'enfant est une maladie. Quand on est une femme sans enfant, on est hors champ. 8h30. Le réveil sonne. J'ai passé une nuit atroce. J'ai saigné sans interruption. Je me recouche épuisé. 10h15, oh, je suis en retard. La douche pour me débarrasser de cette odeur de sang. Je suis à peine sorti de la douche que la douleur repart. Il faut tenir, Enora. Il faut tenir. Je n'ai pas le cœur à tapisser ma culotte avec une serviette format XXL. Alors j'enfile le plus gros tampon que j'ai. Midi, je fonce aux toilettes, mon tampon n'a tenu qu'une heure. Pas le choix, je mets une grosse serviette, une couche. Premier cachet de la maline. 15h. J'ai rendez-vous au Ritz avec une marque de fringues qui veut que je sois son égérie. Je commande un thé. Je reprends un cachet. Les toilettes sont loin. Je finis par craquer. Changement de serviette. 17h. Direction le plateau de Touche pas mon poste. Je me sens sale. L'impression de sentir mauvais. Je passe au stylisme.
Alors, Enora, je t'ai prévu un pantalon blanc. Ça te va ?
Un pantalon blanc ? Sans blague ! Je refuse. 21h. Je dois foncer à la radio pour 3 heures d'antenne. Enora le soir. Écouter la douleur des autres pour calmer la mienne. Passage aux toilettes. Changement de serviette. Je serre les dents. 23h. Je rentre chez moi. Ravagé. Quelques shots de rhum, cul sec, quelques lattes sur un joint, une fiole d'acupant et dodo. Demain, ce sera peut-être pire. Un soir, dans Touche pas mon poste, c'est l'apothéose. J'effectue en direct une chorégraphie de I Am a Slave for You de Britney Spears. Et là, l'endométriose attaque par derrière. La salope attaque mes reins. J'accélère, je me déhanche, le sang coule, mon visage n'exprime rien. Le message est clair. Et pour le coup, la maladie est peut-être une alliée. J'en fais trop. Il est temps de recouvrer ma dignité oubliée. J'entame le chemin qui va me mener jusqu'à la démission. Ne touche pas mon poste. Ma mort médiatique dure 6 mois. Douillette. Plutôt tranquille. Le téléphone ne sonne plus. J'ai toutes mes soirées. Je retourne au cinéma, je revois mes amis. Je goûte à la vie. Une vie normale. Après 10 ans passés dans un tourbillon quotidien. Même si les gens ne me parlent que de ça.
Oh, Enora ! Bonjour, pourquoi vous êtes partie ? Vous allez revenir ?
Un matin, on me propose de jouer dans une pièce de théâtre.
Oui, les montagnes russes, d'Eric Assous.
Ça sera au théâtre Édouard VII. L'histoire d'une fille qui cherche son père, ça. Ça te dit ?
Et c'est comme ça que la lumière revient. Celle qui apaise. Celle qui réchauffe. Juste ce qu'il faut. Pour une autre pièce, quelque temps plus tard, je dois aller essayer des costumes dans un hangar du 20e arrondissement, où sont entreposés la plupart des costumes de théâtre. Oh, ça sent la vieille fripe. J'enfile une culotte à froufrou, des bas, un corset, et j'ai la nausée. Je ne vois que mon corps bourré de lamaline et suant de rhum. Et là, Pascal, la costumière, m'apporte une robe.
Tiens, Nora, essaye cette robe rouge. Ça fait des années que j'essaye de la faire porter à quelqu'un. J'ai jamais trouvé la bonne comédienne.
Je hais le rouge. Le rouge, c'est le sang entre mes jambes. Alors je l'essaye sans conviction. Je m'approche du miroir.
Oh ! Une apparition !
Cette robe me fait l'effet d'un électrochoc. Je me regarde et pour la première fois, je vois tout. Les rides au coin des yeux, mais ils sont toujours bleus. Mes bras un peu mous, mais rigolos. Une femme de 38 ans à qui je décide ce matin-là de pardonner. Le temps de la souffrance et de la contrition doit cesser. Bonjour à toi, petit corps abîmé. Il est temps de te réparer. Viens, viens, on va danser.
You know that it would be untrue. You know that I would be a liar. If I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
Depuis 3 semaines, tout mon entourage se demande pourquoi je souris constamment. Je suis enceinte. Ça n'est pas la première fois. Je connais le duo infernal fausse couche vraie angoisse. Mais cette fois, j'y crois. Mon corps réagit différemment. J'ai des nausées. Mes seins font la taille des monts d'arrêt. J'ai la peau grasse. Alors naïvement, je me dis, ça tiendra. Et donc, pleine d'espoir, je me rends chez mon gynéco pour la première échographie. Sur la table d'examen, je souris, j'écarte mes jambes.
Voilà, ne bougez plus, détendez-vous.
Je laisse la sonde pénétrer dans mon vagin. Le médecin fronce les sourcils et nos regards se croisent.
Je ne vois rien dans l'utérus. Hein.
Il y retourne, il cherche encore.
Ah, ça y est. Malheureusement, on le fait coincer dans la trompe droite. Hein. C'est une grossesse extra-utérine.
Je suis sonné. C'est un deuil qui commence.
Did I see you down in a young girl's town with your mother in so much pain? I was almost there at the top of the stairs with her screaming in the rain.
On vient de faire l'amour. C'était merveilleux. Mais j'ai une petite douleur dans le bas-ventre. Je passe la main à l'entrée de mon vagin. C'est rouge. C'est la couleur dont j'ai horreur. C'est le malheur systématique. Une fausse couche. Encore. La nuit est rythmée par les douleurs, des sortes de contractions. Mais la mort prend son temps. Et au matin, je n'ai pas expulsé la journée qui commence. Je la connais par cœur. Je viens d'emménager dans un nouvel appartement plein de lumière et d'espoir. C'est un sanctuaire paisible. Je veux le préserver des mauvaises ondes. Je ne me livrerai pas ici à mon rituel mortuaire. Je vais aller à l'hôtel.
Allô, bonjour. Je voudrais réserver une chambre. Oui, pour tout de suite.
La chambre est un peu miteuse. Les murs sont tapissés de fleurs vertes et jaunes. Les meubles sont le vieux bois. Et
La salle de bain est équipée d'une baignoire. C'est tout ce qui compte. Je sais quoi faire et comment le faire. C'est la quatrième ou la cinquième fausse couche. J'ai arrêté de compter. La cérémonie sacrificielle commence. Je pose une serviette au pied de la baignoire, une autre imbibée d'eau fraîche au niveau de ma tête. J'ôte mon pantalon, je m'allonge par terre. Elle va revenir. Je la sens. Ça y est, elle est là, la grosse contraction. J'ai mal. Un cri m'échappe. J'ai chaud. Je transpire. Je m'éponge le front avec la serviette humide. J'ai les yeux rivés au plafond un court instant. J'ai l'impression de tenir la main de toutes celles qui sont passées par là avant moi. Femmes de tout pays, de toutes couleurs, de tous les temps. Plutôt que de m'asseoir sur les toilettes, ma technique consiste à monter dans la baignoire. Je m'accroupis en me retenant à la faïence et je pousse. 4 fois. Et à la 4e poussée, je le sang qui jaillit de mon vagin. Je sors de la baignoire, je rince le sang, je regarde le sac disparaître dans la canalisation et je vais m'allonger sur le lit étranger. Et mes larmes se mettent à couler, comme tout le sang que j'ai perdu. Sans fin, comme la tristesse qui m'habite. Il y a quelques années, j'appelle Cyril Hanouna en pleine nuit. Je viens de faire une fausse couche. Dis-moi, Cyril, c'est possible que je vienne pas ce matin ?
Que tu ne viennes pas ? Oh non, c'est pas possible, ma chérie.
Je me rends donc au boulot à 5 heures du matin. Une serviette épaisse dans la culotte et le ventre déchiré. Je serre les dents toute la matinée. J'ai mal. Je suis ravagé par la tristesse. Mais rien. Rien n'apparaît à l'antenne. Les humains ont cette capacité d'encaisser les pires horreurs en jetant un voile bien opaque dessus. Voilà 3 semaines que j'ai fait ma dernière fausse couche. Je pensais être remise et je me rends compte que ça n'est pas le cas. Je sens comme un épais manteau noir sur mes épaules. J'ai les yeux rivés vers le sol. J'ai la respiration saccadée. J'ai envie de me faire mal. Ça fait 3 semaines que le sang coule en quantité astronomique entre mes jambes. Je suis déchiqueté de l'intérieur. J'ai mal de manière continue, sans une minute de répit. Je suis tellement épuisé que je me tape la tête contre les murs, que je me griffe le ventre comme si je voulais en détourner la douleur. Et ce soir, j'ai envie de boire. Boire! Bois ! Et c'est ce que je fais. Une bouteille de vin blanc. L'ivresse me gagne. L'anesthésie aussi. Pour la première fois depuis 3 semaines, je m'endors. Sans douleur. Triste fille. 3 soirs de suite, je bois des litres d'alcool pour étouffer mon infinie tristesse. Et un soir, je suis tellement parti qu'on me vole mon sac que j'ai posé sur le parvis du Trocadéro. Plus de clés, plus de cartes, plus de portable. Le lendemain, au réveil, douche froide, remise à niveau, reset. Je dois stopper cette spirale destructrice. Arrêter de plonger, de nager en apnée dans la merde. Chaque enfant, chaque adolescent que je croise est une souffrance. Je leur caresse la tête, je pourrais être leur mère. C'est pathétique. Mais les démons sont à ma porte. Je recommence à sombrer. Mais la bonne nouvelle, c'est que j'en prends assez vite conscience. La mauvaise, c'est qu'il m'arrive encore de boire. Augmenter la fréquence de mes séances chez le psy. Faire plus d'exercices de respiration. Pour mieux contrôler mes hormones capricieuses. Il faut que j'arrive à faire la part des choses entre mon endométriose et mes pulsions d'autodestruction. Qui était là le premier ? Qui est responsable de l'autre ? Je mélange mes souffrances, mais elles sont toutes à moi. La boisson est désormais bannie de mon appartement et de mes soirées.
Hé, hey, Nora ! T'as pas une bouteille quelque part ? Eh non, j'en ai pas.
J'ai décidé de ne plus faillir. Je ne peux plus. Cette fuite lâche n'est pas celle d'une femme libre. Je pense à ma mère, qui, malgré ses années sanglantes, n'a pas sombré dans la dépendance pour autant. Un 20 juillet, jour de mon anniversaire, je pose le pied au Sénégal, dans un petit hôtel au bord de la mer, à La Somone. Et là-bas, je parle encore et encore avec des femmes. Et elles finissent par me poser la fameuse question.
Et pourquoi tu n'as pas d'enfant ?
Je leur explique ma maladie, tout ce sang qui coule à l'intérieur et à l'extérieur. Et l'une d'elles, timide, me révèle entre deux gorgées de thé qu'elle aussi perd beaucoup de sang et qu'elle a très mal. Dans mon égoïsme de femme blanche parisienne, je n'avais jamais pensé à la réalité de toutes les autres, dans le monde. Cette jeune femme a recours à des décoctions et à la prière.
Oh, le diable est dans la maladie.
Elle n'a pas les moyens d'acheter des protections hygiéniques.
Oh, je mélange de l'argile avec des bouches de vache. Et je tapisse le fond de ma culotte. Eh oui.
Combien d'entre nous bourrent-elles leurs culottes de papier toilette ? Au Sénégal, je visite un orphelinat. Et là, je trouve des réponses. En plongeant mon regard dans les yeux des enfants, en restant assise des heures et des heures sur le perron, en regardant les petits aller et venir. L'adoption sera ma prochaine aventure. Celle de ma vie, la plus jolie. Avec mon utérus malade et mes jambes bancales, nous sommes prêts désormais à vivre la deuxième moitié de notre vie. J'ai tiré cette histoire du livre d'Enora Malagré chez J'ai lu, Un cri du ventre.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.